Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Petit conseil d'amis, si quelqu'un vous met au défi de manger 50 œufs de suite, refusez. C'est le genre de pari stupide que certains ont pu être tentés de faire durant le premier confinement, faute de pouvoir parier sur un PSG-OM dans un championnat à l'arrêt. Pour info, l'Indien qui a eu cette mauvaise idée est mort d'indigestion au bout de son 42e œuf. Il avait parié 2000 roupies, soit environ 25 euros. Heureusement que les compétitions sportives ont repris. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et je vais m'intéresser aujourd'hui au marché du pari sportif qui a bien récupéré de la trêve du deuxième trimestre.
Oui, décision ferme inédite prise par le gouvernement et imposée aux ligues. C'est valable pour l'ensemble des sports collectifs. Cela va du rugby au handball jusqu'au football. Plus de Ligue 1 ni de Ligue 2 jusqu'en août prochain au moins.
La tuile. Souvenez-vous, c'était fin avril. Le gouvernement sifflait la fin des championnats pour les sports professionnels français. Plus de matchs, plus de compétitions, plus de buts ou de paniers. Rideau, plus de paris sportifs non plus. À part peut-être pour les courses à l'escargot, dont le fameux championnat du monde de Congham en Angleterre, sous les vivas de la foule, plus bruyant que le rare public des stades de foot français en période de confinement.
Tandis que je parle, eh bien le départ vient d'être donné, c'est un train extrêmement rapide que la course a lieu maintenant, et je vous laisse le soin, chers téléspectateurs, de juger vous-même de cette extraordinaire échappée. Bravo Lili Benjamin et bravo Dalida.
Avec une imitation de Léon Zitrone, ça peut passer, mais pour le suspense, on repassera. Depuis fin août, le sport a repris ses droits et les sociétés de paris sportifs ont pu reprendre le chemin du but et surtout de la publicité à la télévision. Avec succès, si l'on en croit les derniers chiffres publiés par l'ANJ, l'autorité de régulation des jeux, elle a succédé à l'ARJEL créée il y a 10 ans pour accompagner la libéralisation du marché des jeux d'argent en ligne, en particulier le poker et le pari sportif. Le pari en ligne fête donc ses 10 ans et après un début difficile, il est entré dans une phase de croissance et de développement. Christophe Paliers, vous êtes spécialiste du secteur du sport aux Échos, on va le rappeler. Avant Internet, il y a eu un ancêtre en France créé il y a 35 ans.
Il faut quand même rappeler que le pari sportif, sous une forme, si je puis dire, institutionnelle, remonte en fait à 1985, avec, pour les plus jeunes d'entre nous, avec le lancement du fameux jeu Lotofoot par la Française des Jeux, qui était la première formule, au fond, de pari sportif organisé, agréé par les autorités publiques. Et au bout d'un certain temps, cette activité a grandi gentiment à l'ombre des jeux de loterie de la Française des Jeux, puisque à l'époque, on est en monopole. Et il y a une première évolution dans les années 2000 avec le lancement des activités Internet de la Française des Jeux. Mais il est clair que le marché des paris sportifs et du pari sportif en ligne a vraiment changé à partir de 2010 avec la libéralisation partielle du marché français des jeux d'argent sur Internet et par là même donc l'ouverture à la concurrence du monopole de la Française des Jeux sur le pari sportif. Et là, clairement, il y a une nouvelle donne et le pari sportif et le pari sportif en ligne, vraiment, décollent avec la révolution numérique, la révolution du smartphone et puis l'arrivée des millennials. Il y a une espèce de convergence, de conjonction de tous ces facteurs. Et je vais prendre 2-3 chiffres pour, comment dirais-je, résumer au fond cette problématique. En 2011, qui est la première année de référence du marché du pari sportif libéralisé, le total des mises sur Internet donc s'élève à 592 millions d'euros. En 2019, dernière année pleine, le cumul a légèrement dépassé les 5 milliards. Donc, c'est clair qu'il y a une autre dimension. Et d'autant plus que la FDJ, qui a longtemps écrasé le marché avec son réseau de buralistes, qui capte l'essentiel de ces paris sportifs, pèse moins lourd aujourd'hui que les opérateurs Internet. 2 autres chiffres pour préciser mon propos. En 2011, Le pari sportif chez la Française des Jeux était de l'ordre du milliard. En 2019, il était à 3,5 milliards d'euros, donc il y a une croissance réelle, mais ce 3,5 milliards d'euros, c'est moins que le marché en ligne qui, globalement, pèse 5 milliards d'euros. Donc, on voit bien que le pari sportif s'est installé, comme vous le disiez, Pierrick, dans la société française. Et on voit bien que cette croissance aussi, elle est vraiment devenue exponentielle au cours des 5 dernières années. Parce que la libéralisation, au départ, a été assez limitée dans son impact économique. Et plus le temps passe, plus on voit que cette croissance exponentielle s'installe et donc le marché il n'est peut-être pas encore à maturité comme on peut voir dans certains pays tels la Grande-Bretagne où ces pratiques-là sont commencées bien avant nous.
L'arrêt des championnats, notamment en France en mars dernier, a donc eu un impact négatif sur le secteur avec une baisse de 56% du chiffre d'affaires dans les paris sportifs malgré l'ajout de nouvelles compétitions comme le foot en Australie ou le hockey sur glace en Biélorussie. Le nombre de comptes actifs a lui chuté d'un tiers. Christophe, l'ANJ vient de publier les chiffres du pari sportif pour le troisième trimestre de cette année. Globalement, comment s'est comporté le marché ?
Le premier enseignement, c'est donc le rebond spectaculaire du pari sportif, puisqu'on est sur une croissance des mises de 49% par rapport au troisième trimestre 2019. Globalement, on est sur un montant d'enjeux de l'ordre de 1,6 milliard d'euros. Il faut quand même rappeler que les deux trimestres précédents avaient été des trimestres en déclin, voire en forte baisse, du fait de la suspension ou l'annulation des compétitions. On avait une légère baisse au premier trimestre, puisque le phénomène impactait surtout à la fin de la période. Donc, on était sur une baisse de l'ordre de 4%. Et au deuxième trimestre, là, on a vraiment vu la décrue, puisqu'on était sur une tendance de moins 57% avec ce coup d'accordéon sur le calendrier sportif. Mais on voit que dès le troisième trimestre, la reprise des compétitions à la fin du premier semestre et puis toujours plus dans l'été a eu le phénomène inverse, le phénomène mécanique. La machine est relancée parce qu'on a eu la fin décalée de certains championnats de foot européens. On a eu ce fameux tournoi finale inédit de la Ligue des Champions et tout ça a alimenté le marché. Et on va d'autant plus faire un petit coup de projecteur sur cette Ligue des Champions que son incidence a été extrêmement forte. Deux éléments pour l'illustrer. La finale PSG-Bayern est aujourd'hui le deuxième match après la finale de la Coupe du Monde de 2018 à avoir généré le plus d'enjeux. On est sur un total de mise pour cette rencontre de 31 millions à comparer à 38,5 millions pour le fameux France-Croatie du 15 juillet 2018. Et un autre chiffre pour illustrer cet impact du football avec cette reprise d'un calendrier réaménagé, c'est qu'on a un phénomène un peu de surpondération du football par rapport aux autres sports, puisque la part du football sur le troisième trimestre 2020 est de l'ordre de 64%, tout sport confondu, alors qu'en général, ça tourne autour de 55%.
C'est ce qui explique d'ailleurs ces bons chiffres trimestriels qui peuvent surprendre compte tenu de l'annulation de certaines compétitions très importantes cette année, je pense à l'Euro 2020 notamment.
Alors c'est sûr, et c'est ce qu'on disait précédemment, on a eu donc cette forte décrue au deuxième trimestre parce que toutes ces compétitions ont été supprimées ou annulées. Par exemple, pour le tennis, Wimbledon, bon, Roland-Garros avait été reporté, hein, mais bon, il y a eu des annulations sèches. Donc on a un autre calendrier, mais on voit quand même que dans cette croissance spectaculaire, ce rebond, il y a quand même une forme de rattrapage parce que l'air de rien, le montant des enjeux, il est quand même trois fois supérieur à celui du deuxième trimestre 2020. Et ce rattrapage, il tient à un calendrier réaménagé. C'est-à-dire, OK, il y a eu des compétitions qui ont disparu. Certaines étaient à la fois sur juin-juillet. Hein, typiquement, l'euro est toujours sur ces deux mois-là. Mais sauf que ce calendrier réaménagé, il donne quand même l'occasion de relancer cette machine, cette locomotive du monde des jeux d'argent en France et pas seulement, parce qu'au fond, le modèle français aujourd'hui, il est assez proche de ce qu'on peut voir à l'étranger. Et donc, cette relance, elle est quand même avec ce calendrier sportif réaménagé. Donc, il y a eu des moins d'un côté et puis il y a eu des plus de l'autre. Mais au bout du bout, on a un rattrapage et ce rattrapage, il traduit quand même quelque part une tendance de fond.
Mais le confinement, est-ce qu'il est propice aussi aux paris sportifs? Il a drainé un nouveau public, notamment vers les opérateurs?
Alors, il y a un effet confinement, Pierrick, mais on l'a vu sur d'autres sports, en fait, parce que le grand vainqueur du confinement, c'est le poker en ligne. Clairement, pourquoi? Bah, déjà, il n'y a plus de paris sportifs une bonne partie du premier semestre. Le pari hippique est quand même affecté sérieusement par l'arrêt des courses hippiques qui reprennent qu'avec le déconfinement à partir du 11 mai. Donc, à un moment donné, il y a un transfert de joueurs et en fait, manifestement, de joueurs de paris sportifs sur le poker et qui fait qu'au au premier semestre, le poker est quand même sur une tendance à plus de 80%, alors que, on le dit, le pari sportif, au même moment, il est en pleine décrue. Et le phénomène de transfert, alors, est-ce qu'il a joué ou pas sur le pari épique? C'est difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est que le pari épique s'est vraiment redynamisé avec le redémarrage des courses en France à huis clos à partir du 11 mai.
On parle des mises, Christophe, c'est ce que les joueurs ont parié, mais c'est différent de ce que touchent les opérateurs?
Oui, alors c'est effectivement extrêmement important, Pierrick, que de le rappeler, parce qu'en fait, le chiffre d'affaires réel des opérateurs, ce qu'on appelle le produit brut des jeux, en réalité, c'est la différence entre les mises des joueurs et leurs gains. Et là, évidemment, si on prend le pari sportif, bah, ça dépend du résultat, ça dépend aussi du taux de retour aux joueurs que peuvent pratiquer les opérateurs, sachant qu'il est plafonné dans le temps à 85%. Mais si on prend l'année 2019, qui est au fond pour nous la dernière année de référence, bah, pour un total des mises sur l'ensemble de l'année en pari sportif sur Internet d'un peu plus de 5 milliards, le produit brut des jeux total des opérateurs, le chiffre d'affaires des opérateurs en tant que tel, il n'est que de 880 millions d'euros. Donc, on voit quand même qu'il y a un retour extrêmement important aux joueurs. Et le gros changement qu'on a eu cette année par rapport à la décennie écoulée, avec la mise en place de ce nouveau marché en 2010, c'est qu'aujourd'hui, les opérateurs sont taxés sur ce produit brut des jeux, cette assiette fiscale, et non plus sur le total des mises, parce que pendant très longtemps, enfin pendant 10 ans quasiment, les opérateurs ont souligné, non sans raison, qu'en fait, ils étaient taxés sur une recette qui n'était pas la leur, au fond.
Au cours de ce troisième trimestre, le produit brut des jeux a atteint 228 millions d'euros, en hausse de seulement 6%. Il a donc progressé 8 fois moins vite que le montant des paris. Il faut dire que sur un an, le pourcentage reversé aux joueurs a grimpé de 5 points pour atteindre près de 86%. Les résultats sportifs ont été défavorables aux opérateurs, explique l'ANJ. En gros, les joueurs ont eu le nez creux. Mais justement, comment les opérateurs créent-ils une cote? Comment font-ils pour définir qui a le plus de probabilité de remporter un match ou de marquer un but? Il y a quelques mois, juste avant le premier confinement, j'avais eu l'occasion de rencontrer les équipes de Winamax, l'un des principaux opérateurs de paris sportifs en France, aux côtés notamment de Betclic, d'Unibet, de Bwin, de TheBet ou encore de la Française des Jeux. J'étais entré notamment dans la salle des paris, là où travaillent ceux qui définissent les cotes.
Là, les quatre premières rangées, ouais, c'est les traders en paris sportifs. Donc, c'est ceux qui font les cotes, tout simplement.
En temps réel, au fur et à mesure
En temps réel, parfois, sur les sports un peu petits, comme le biathlon, etc. Sinon, ça va surtout être des cotes avant les matchs. D'accord. On va ajuster. La NBA, tout le monde fait la NBA. En fait, on est une vingtaine et on est. Bon, y a certains qui sont plus spécialistes dans certains sports que d'autres. D'accord. Mais normalement, voilà, on connaît tous les sports, même les plus obscurs.
D'accord.
Donc, et on est donc ici 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a quelqu'un dans ce bureau qui fabrique des cotes. Parce que forcément, partout dans le monde, à chaque heure de la nuit, il y a un événement sportif, que ce soit la NBA la nuit, le biathlon le jour, le matin, on a du baseball japonais. Enfin, il y a, voilà, c'est vraiment.
Vous avez quelqu'un qui s'y connaît en baseball japonais?
24 heures sur 24, la planète paris sportif tourne.
Ce soir-là, c'était la veille de PSG Dortmund en Ligue des Champions. L'ambiance était donc studieuse au moment de parier sur le bon cheval.
Faire les probabilités du match de demain. Donc, sur la feuille que vous avez eue, Je vous propose juste de noter, ou alors de le faire dans vos têtes, la probabilité que le PSG remporte le match, je parle juste du match, hein, je ne parle pas de la qualification, fasse match nul ou que Dortmund l'emporte. Du coup, par exemple, Thomas, quelles seraient tes probabilités pour le match ?
Victoire du PSG 65%, ouais. Match nul 20%, ouais. Et Dortmund gagne 15%.
C'est fini. Après trois échecs consécutifs, le Paris Saint-Germain a réussi à se défaire de ses démons et a de nouveau son rond de serviette à la table des quarts de finalistes.
Bien vu, le PSG l'avait emporté 2-0 et s'était qualifié pour les quarts de finale. On connaît la suite. Mais comment fabrique-t-on une cote ? J'ai pu rencontrer au calme un des traders présents ce soir-là. Il s'appelle Benjamin. Il travaille depuis près de 6 ans chez Winamax. Je lui ai d'abord demandé comment est-ce qu'on devenait trader dans une société de paris sportifs.
Alors, il n'y a pas vraiment de formation pour faire ce métier-là. Moi, personnellement, mon parcours, c'est un parcours assez classique en web marketing, e-business, enfin quelque chose qui se rapproche plus des sciences de l'Internet, on va dire. Et pour devenir trader en paris sportifs, il faut à la fois être très passionné de sport, connaître tous les sports, pas seulement les plus connus comme le foot ou le tennis sur lesquels tout le monde parie, mais tous les sports dont les plus obscurs, j'ai envie de dire, et à la fois avoir de bonnes notions mathématiques, car les maths sont très présentes pour tout ce qui est calcul de code de paris. Donc, comme les vrais traders, entre guillemets, il faut être très bon en maths et donc à la fois en sport.
Faire du calcul de probabilité, hein, c'est ça?
Exactement. Une cote, c'est en fait une probabilité, c'est un calcul de pourcentage, entre guillemets. On fixe des probabilités d'événements sportifs, donc tel joueur va marquer un but, telle équipe va battre une autre, et nous, notre travail, c'est de traduire ces pourcentages-là en cotes.
Ça veut dire éplucher l'équipe tous les jours ?
Pas que l'équipe, parce que dans l'équipe, on a les informations, entre guillemets, publiques pour vraiment le commun des mortels qui aime le sport. Nous, on va aussi aller sur les réseaux sociaux pour être les premiers sur une information concernant l'absence d'un joueur ou concernant, je sais pas, un événement où il va pleuvoir. Alors du coup, peut-être que les conditions vont influer sur le résultat d'un événement, ou plein de choses comme ça qui font qu'on doit être aussi très au courant de l'actualité sportive et aussi être les plus rapides pour que nos cotes soient actualisées le plus vite possible.
On le disait, il faut être un passionné de sport, il faut être bon en maths. Alors justement, comment est-ce qu'on calcule une cote ?
Alors une cote, c'est une formule toute simple qui est 1 sur la probabilité. C'est-à-dire que si vous avez une probabilité de 50%, donc vous faites 1 divisé par 0,5, qui est la probabilité, et vous obtenez une cote à 2. Si une équipe a 50% de chance de l'emporter, sa cote sera de 2. Si elle a une chance sur 6 de l'emporter, sa cote sera de 6. C'est un calcul qui est tout simple, mais le calcul qui est en fait compliqué, c'est celui de la probabilité en elle-même, qui là passe par de nombreux critères, comme je vous ai dit, l'environnement, les compositions de telle ou telle équipe, la forme d'un joueur, etc. C'est des milliers de critères qui s'additionnent pour donner la probabilité finale et la cote finale.
C'est facile de se tromper, du coup ?
C'est facile de se tromper, oui, mais notre but en tant que bookmaker, c'est de se tromper le moins possible. Et donc, le but des parieurs, c'est de voir où éventuellement on se serait trompé. Et donc, du coup, voilà, c'est un espèce de jeu, entre guillemets, hein, où le bookmaker essaye d'être plus fort que le parieur et inversement.
Il y a une tendance parfois, même inconsciemment, à privilégier une équipe que l'on aime bien.
En tant que trader ?
Oui.
Non, notre but, c'est de faire les choses la plus détachée possible et la plus objective possible, parce que ce ne sont pas nos sous. Si nous, on a envie, en tant que parieur, de parier sur telle et telle équipe, c'est notre argent qu'on engage, mais là, on engage l'argent de notre société. Donc, le but, c'est de faire les meilleurs codes possibles et les plus justes possibles, surtout.
Ouais, mais voilà. Le plan, pour l'instant, se déroule tel le professeur l'avait prédit. Le braquage parfait, la casse du siècle. Wina, désolé, on va vous enlever 400 000 de plus.
Il y a quelques jours, Truiton31 a gagné près de 400 000 euros sur Winamax. Il a validé un combiné à 21 matchs gagnants. Vous m'expliquerez tout à l'heure ce que ça veut dire. En misant notamment sur une victoire de Jonas Bo en biathlon, il a gagné. On voit, les sommes sont importantes. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas se tromper quand on calcule une cote. Vous avez des responsabilités ?
Bien sûr, on a de grosses responsabilités puisque une cote ratée, entre guillemets, qu'un parieur exploite, si je peux dire ça comme ça, bah forcément, ça va engendrer beaucoup d'argent perdu puisque si le parieur se rend compte que la cote est mauvaise, il va miser des montants assez énormes. Et du coup, effectivement, ça peut perdre beaucoup d'argent. Après, nous, on a des systèmes pour se rendre compte qu'une cote a été mauvaise. On a des systèmes de sécurité qui font que, heureusement, on fait peu d'erreurs et nos parieurs en profitent le moins possible. C'est notre rôle.
C'est quoi un combiné, alors, à 21 gagnants?
Un combiné, c'est la multiplication de plusieurs cotes. C'est-à-dire qu'on parie sur un événement combiné à un autre événement. Et donc, pour gagner son pari, il faut que les deux 3, 4, 5, autant de paris qu'on veut ajouter à son combiné. Il faut que tous ces paris soient validés, soient bons, pour au final gagner son pari.
Alors vous êtes une assez grosse équipe, hein. Vous tournez, je crois, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes obligé de vous intéresser à tous les sports ou vous êtes spécialisé?
Alors chacun a un peu ses spécialités, mais vu qu'on travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 en équipe tournante, parfois quand on est de nuit on doit regarder la NBA, parfois l'après-midi en ce moment il y a du biathlon et il faut avoir une base dans tous les sports, même les plus sombres. Mais après voilà, le fait d'être une vingtaine de traders, ça nous permet chacun à sa spécialité et chacun va demander à l'autre des conseils pour être au mieux sur tous les sports.
En mars dernier, j'avais aussi interrogé Benjamin sur l'Euro 2020 qui devait se tenir durant l'été. La compétition avait été repoussée. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est que le trader m'a surpris. 3 mois avant, ils avaient déjà préparé plusieurs cotes en vue de l'événement.
On a déjà toutes les cotes qui concernent le vainqueur de la compétition, les cotes qui sera le premier de tel groupe. Et on a même les cotes des premiers matchs. Donc, dès que le tirage de l'Euro a été effectué, nos cotes ont été réactualisées, mais les cotes pour le vainqueur de l'Euro 2020 ont été publiées directement après l'Euro 2016. Donc, ça fait déjà 4 ans qu'on peut parier sur le vainqueur de l'Euro 2020.
Sachant que la cote va bouger, j'imagine, jusqu'au bout?
Bah oui, exactement. Par exemple, on peut prendre l'exemple des Pays-Bas. Les Pays-Bas étaient vraiment au fond du trou il y a 4 ans et ils étaient même pas, enfin, ils n'arrivaient même pas à se qualifier pour des compétitions importantes. Et maintenant, ils ont battu des équipes comme la France, etc. Ils ont une des meilleures équipes d'Europe. Donc forcément, leur cote il y a 4 ans, quand elles sont sorties, la cote des Pays-Bas était, je sais pas, aux alentours peut-être de 25 ou de 30 et maintenant elle est en dessous de 10.
Donc il valait mieux croire la victoire des Pays-Bas il y a 4 ans qu'aujourd'hui.
Oui, si on voulait se faire de l'argent, c'est sûr qu'une mise il y a 4 ans sur les Pays-Bas, maintenant, on est déjà bien parti, même si l'Euro n'a pas encore commencé. Mais c'est déjà un bon pari en soi.
C'est mal défendu, Jeannot, mais c'est pas fini. Et ça misère ! Oh ! Ouh, la main de Loris Hoppemol pour l'ouverture du score de Sabitzer, qui tente sa chance à l'entrée de la surface de réparation. Et les affaires de Tottenham se compliquent sérieusement.
Ce 10 mars 2020, devant les caméras de RMC Sport, Leipzig, futur adversaire du PSG, atomise Tottenham 3-0 sous les yeux des invités de Winamax. À la 20e minute, les Allemands menaient déjà 2-0. J'ai un peu commencé à me désintéresser du match et je me suis rapproché de Tristan Guiglini. Il est responsable des paris sportifs. On a discuté un peu de son entreprise et du fait que Winamax avait d'abord misé sur le poker avant de s'intéresser ensuite aux paris sportifs.
Alors, on était une entreprise de pure player poker, effectivement. On est une entreprise de passionnés, une petite start-up par rapport aux grands groupes de l'industrie du jeu. Et du coup, le poker suffisait bien à nous occuper une grosse partie de nos journées et nos week-ends. Et quand on a eu l'impression d'avoir grimpé une marche en poker, on s'est dit pourquoi pas également venir sur le terrain de jeu du pari sportif. Et la Coupe du Monde 2014 était la bonne occasion pour sauter le pas.
Et ça a été une bonne expérience ?
Ça a été une très bonne expérience parce qu'on a dû se remettre en question sur pas mal de choses. Au poker, on était leader sur le marché français avec pas mal de certitudes. Et au pari sportif, on est arrivé en tant que petit outsider avec plein de choses à apprendre face à beaucoup de grands groupes internationaux, anglo-saxons, qui faisaient du pari sportif depuis de nombreuses années. Donc il a fallu apprendre de nouvelles choses et ça a été intéressant professionnellement, intellectuellement, voilà, de se mettre là-dessus.
C'est une activité très concurrentielle.
Effectivement, c'est... surtout en France, c'est très concurrentiel. Au poker, vous avez, c'est une activité plus monopolistique. Plus vous avez de joueurs sur un site, plus les joueurs ont intérêt à jouer sur site. C'est un peu comme un réseau social, un peu comme un Facebook. Plus il y a de joueurs, plus j'ai intérêt à jouer. Au pari sportif, j'ai pas cet intérêt-là parce que je joue contre le site. Du coup, il y a beaucoup plus de concurrents qui peuvent vivre. Et effectivement, actuellement en France, il y a plusieurs plateformes qui se tirent un peu la bourre pour... Sur le marché du pari sportif.
On a vu une très forte hausse du chiffre d'affaires ces dernières années des sites de pari sportif. On a beaucoup plus d'interrogations concernant la rentabilité. Vous êtes rentable ?
Alors oui, on est rentable. Je ne peux pas parler pour nos concurrents, mais oui, on est rentable. On essaye de proposer les meilleures cotes, ce qui veut dire parfois moins de rentabilité que nos concurrents, mais oui, on arrive à être rentable sur le pari sportif.
Winamax, grosse cote. Gros gain, gros respect.
Quand on regarde votre stratégie de communication et celle de vos concurrents, on voyait encore une publicité justement avant le match qu'on va regarder ce soir. On voit que vous vous adressez tout de même à un public, alors c'est un peu caricatural, hein, jeune, masculin, plutôt périurbain. Est-ce que ce profil type finalement ne limite pas le potentiel d'expansion du pari sportif en France ?
Alors, masculin, je suis entièrement d'accord. On a près de 90% d'hommes qui s'inscrivent sur Winamax. Périurbain, pas tout à fait. C'est les zones urbaines, y compris les centres-villes, qui jouent plus que la campagne. Pourquoi ? Peut-être par des raisons de connexion Internet, avec meilleur accès au réseau, à la 4G, etc., où c'est plus simple de se connecter n'importe où de son mobile. Peut-être aussi pour des raisons culturelles. Et sur l'âge, nous, le parieur a une moyenne d'âge de 30 ans. Chez nous, mais clairement, il a à peu près 5 ans de moins que le joueur de poker. Donc par rapport à nos communications poker d'IA, de l'ouverture du marché, on a fait l'effort de se tourner vers le moins de 30 ans qui représentera sûrement l'avenir du pari sportif.
On parle beaucoup de l'arrivée prochainement en France de Bet365, hein, le groupe britannique, ça vous inquiète ?
Alors c'est un des leaders mondiaux, voire le leader mondial en Europe ou Europe occidentale. Ça serait un concurrent très sérieux. Je pense qu'ils sont très forts dans le pari sportif, mais ils ont toute une culture anglo-saxonne et il faudra voir comment ils vont s'adapter au marché français qui a des spécificités culturelles assez fortes. Et du coup, à la fois, ça serait inquiétant et challengeant. En tout cas, ça serait intéressant de voir comment on se positionnerait contre eux.
C'est quoi les spécificités du marché français ?
Par exemple, en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, vous n'allez pas parler des codes de la même façon. Nous, on parle en code décimal. En Angleterre, on va parler de codes contraints. Je ne sais pas si vous avez souvent entendu des codes 5 contre 1, 13 contre 1, etc. Nous, on va parler en code décimal. Ce n'est pas la même chose. Il faut savoir que les Anglais, ils doivent parier depuis un demi-siècle. Le pari est complètement présent dans la culture anglo-saxonne. Quand un journal politique sort un sondage pour une élection, on va le traduire en cote, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Le pari sportif, c'est quelque chose d'assez récent. Ça a une dizaine d'années pour le pari en ligne, mais avant, c'était quelque chose d'assez petit. Donc, ce n'est pas tout à fait la même maturité. En Angleterre, on a beaucoup de parieurs très, très expérimentés. Quand on a une naissance dans une famille, on va parier sur le nouveau-né qui a une sélection en équipe d'Angleterre ou qui gagne le Wimbledon. C'est pas la même chose en France. Donc, il y a une différence culturelle du parieur anglais et du parieur français. Et du coup, mais peut-être qu'ils sauront très bien faire. Mais en tout cas, nous, on trouverait ça à la fois, effectivement, c'est un concurrent qui serait fort, et à la fois, ça serait challengeant de se confronter à eux, parce qu'on les regarde beaucoup depuis la France, et c'est des gens qui sont très bons dans leur métier.
Vous n'êtes pas prêt à faire des paris sur le nom du Royal Baby
Pour l'instant, en France, c'est interdit, parce que l'ARJEL, donc l'autorité de régulation des jeux en ligne, donne une liste de paris autorisés, et c'est forcément sur le sport. On n'a pas le droit non plus de faire de paris sur la politique, par exemple, l'élection de Trump ou les municipales à Paris, c'est pas possible.
Merci Tristan Guiglini et Benjamin de Winamax et merci à Christophe Paliers des Échos. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez suivre La Story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.